عسلامة، مرحبا بكم الكل، مرحبا بكم في برنامجكم اكسبريسو. حاضر معنا ضيف خاص اليوم، اكيد سمعتوا لا باند انونس كي بارلي دو سيت انترفيو، الحوار هذا مش طول عليكم، مع السيد دومينيك دو فيبان، وزير الاول سابق لفرنسا، كان وزير خارجيه سابق، ايضا وزير داخليه وعديد المناصب. تنرجو نحكيوا على هذايا من بعد في سؤال خاص حبيت نختم به الحوار هذايا. مش نحكيوا في عديد المواضيع، نحكيوا على نوفل الأوردر إيكونوميك اللي هو كان موضوع أيام المؤسسة في دورتها 39 اللي كان حاضر أون تونك كينوت سبيكر في الافتتاح. باش نحكيو معاه على المؤسسة، باش نحكيو معاه على الجيوبوليتيك، باش نحكيو معاه على لي غرون بلوك، على عديد المواضيع أكيد دكتواليتي. هذايا الكل في هذا الحوار. ساعة نرحبوا بضيفنا. بونجور، ميرسي دكسبتي نوتر انفيتاسيون سماتان.
بونجور.
ميرسي. ألوغ je parlais, vous l'aurez deviné avec quelques mots en français, donc je parlais également d'un nouvel ordre économique mondial, et c'était l'un des sujets sur lesquels vous êtes intervenu donc, à l'occasion de la 39e édition des Journées de l'entreprise à Sousse, organisée par l'Institut arabe des chefs d'entreprise. Alors, vous parlez bien avant, depuis même longtemps, de la fin d'un ordre mondial hérité de l'après-guerre. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une simple transition ou nous sommes déjà dans un nouveau monde ?
On est déjà dans un nouveau monde et il suffit de regarder ce qu'était l'ordre international de 1945, fondé sur le droit et non sur la force, fondé sur la perspective d'avancer vers la démocratie libérale et non la démocratie illibérale, fondé sur le libre-échange et non sur le protectionnisme. Donc on a changé de monde. À la mondialisation que nous avons connue à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui était une mondialisation avec un horizon toujours plus élargi, a répondu également une fragmentation du monde en blocs, en zones d'influence. Et tout ceci, c'est la situation d'aujourd'hui dont il faut prendre compte.
C'est irréversible ?
Alors, rien n'est irréversible et le monde change. Ce qui est certain, c'est que depuis une trentaine d'années, l'accélération du monde est considérable. 1979 marque un changement important pour les révolutions conservatrices en Occident, mais aussi en Orient, avec la révolution iranienne. 1989, c'est à la fois Tiananmen et c'est en même temps la chute du mur de Berlin. 2001, c'est le choc aux États-Unis. Et puis, l'enchaînement n'a cessé de s'accélérer. L'Afghanistan, l'Irak, 2008, les crises financières, 2011, les printemps arabes, et puis le rendez-vous de 2022 avec l'agression russe en Ukraine, et 2023, la tragique guerre de Gaza après la tragédie du 7 octobre. Donc, on voit bien que cette accélération, c'est la caractéristique du monde d'aujourd'hui. Et puis, encore un changement formidable avec l'avènement du deuxième mandat de Donald Trump. Les taxes commerciales, la nouvelle vision du monde avec cette stratégie de sécurité qu'ont défendu les États-Unis il y a quelques jours, qui est un regard complètement différent de celui que nous connaissions, avec une volonté de désescalade vis-à-vis de la Chine, une volonté de dégel vis-à-vis de la Russie et une forme de mépris, de rupture avec l'Europe. C'est effectivement un ordre qui change à toute vitesse, ou plutôt un désordre qui ne cesse de s'accroître.
Désordre. Alors, que prédisez-vous que, c'est une question que j'improvise. Que prédisez-vous peut-être pour les prochaines années? Vous avez bien relaté tous ces grands changements qui ont eu lieu et on a l'impression que c'est cyclique, qu'il y en a d'autres, que c'est inévitable. On a l'impression. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver dans les 10 prochaines années?
Alors, je parlerai plutôt que de prévision, de défi, parce que je fais partie de ceux qui se veulent parmi les réalistes dans l'ordre international. Quel est le grand défi que nous avons? Nous sommes dans un monde de désordre, nous sommes dans un monde d'imprévisibilité et nous sommes dans un monde d'instabilité. Donc il faut tout faire pour donner plus de prévisibilité et plus de stabilité. Et le premier devoir que nous avons dans les prochaines années, c'est dès lors que nous constatons une mondialisation qui se fragmente en grandes zones géographiques, en zones d'influence. On le voit dans l'attitude des États-Unis vis-à-vis de l'Amérique latine. Il y avait la doctrine Monroe en 1823 et il y a le nouveau regard que les États-Unis portent sur l'Amérique latine qui est la volonté de reprendre en main, en particulier par rapport à la concurrence de la Chine. Eh bien, nous devons tirer les leçons, nous aussi, Européens, habitants du Maghreb, de l'Afrique ou du Moyen-Orient. C'est que cette proximité qui existe entre l'Europe, le Maghreb, l'Afrique, le Moyen-Orient, cette proximité, c'est une chance. Et nous avons à mettre en place une politique de voisinage qui nous permette de tirer parti de cet avantage que nous confère la géographie, avec des chaînes de valeur qui peuvent nous relier davantage et plus efficacement, avec des avantages comparatifs, la proximité pour un certain nombre de productions, avec la capacité à mieux contrôler certains phénomènes, je pense à l'immigration, certains trafics, pour rajouter de la stabilité face à cette instabilité qui monte. Donc, dans un monde en désordre, le pari qui est le nôtre, c'est celui de la maîtrise, c'est celui qui est du contrôle. Quand on regarde les nouveaux empires qui se sont affirmés sur la scène internationale, la Chine, les États-Unis, la Russie, quel est le premier stade auquel ils s'attellent ? Mieux contrôler leur environnement, faire en sorte de mieux maîtriser, sortir de ces zones d'incertitude. Eh bien, je pense que nous avons beaucoup d'incompréhensions qui se sont accumulées entre l'Europe, le Maghreb, l'Afrique au cours des dernières années, des dernières décennies. Et nous devons réintroduire du dialogue, réintroduire de la compréhension. Et donc, la première étape, c'est de sortir de la logique ancienne qui était celle de la relation nord-sud, de l'aide au développement, d'une vision inégale du rapport de force pour rentrer dans un nouvel âge qui est celui de l'égalité, qui est celui d'une relation fraternelle entre ces zones et donc la mise en place d'une politique de voisinage. Quand on parle entre voisins, on parle à égalité en mettant en place des instruments qui vont nous permettre de mieux commercer ensemble, de mieux nous développer ensemble, de mieux prendre en compte les difficultés de l'autre et donc de nourrir des partenariats qui vont nous rendre plus forts dans un monde plus dangereux.
Alors, je vais faire un parallèle et je vais rebondir du coup pour le monde de l'entreprise et qui connaît, en tout cas l'économie aujourd'hui, elle connaît un retour de la géopolitique dans l'économie et aujourd'hui, les entreprises sont rattrapées par la géopolitique. Donc on parle de sanctions, vous évoquez, de protectionnisme, chaînes de valeur, vous l'évoquez il y a quelques instants, mais je dirais que c'est des chaînes de valeur qui sont fragmentées. Et donc, est-ce aujourd'hui la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue et est-ce qu'aujourd'hui les entreprises, comment elles doivent en fait penser désormais leur avenir et est-ce que, j'ai envie même de souffler un début de réponse, est-ce qu'elles doivent agir comme des acteurs géopolitiques aujourd'hui? Voilà. Comment doit se comporter l'entreprise dans tout cela?
Les responsabilités de l'entreprise, les devoirs de l'entreprise dans un monde instable sont évidemment plus grands et différents de l'ordre précédent. Dans l'ordre précédent, il y avait des règles auxquelles on pouvait se raccrocher, il y avait des garde-fous, il y avait des institutions internationales. La multipolarité d'aujourd'hui s'accompagne d'une remise en cause du multilatéralisme. Donc nous sommes dans un monde qui est une sorte de jungle nous avons vu se développer au cours des dernières années. Il faut prendre en compte ce contexte. Et les entreprises doivent donc s'appuyer sur des territoires, doivent s'appuyer sur des zones géographiques qui sont susceptibles d'être mieux maîtrisées, d'être plus accueillantes. Et c'est pour cela que j'appelle l'Europe et le Maghreb à faire ce travail pour, en quelque sorte, développer un écosystème. Nous avons la Méditerranée en partage. C'est une chance. Et cet écosystème commun, il doit nous permettre d'avancer ensemble, de développer des marchés ensemble en tirant avantage des compétences des uns et des autres. Regardez le formidable saut technologique qu'a fait la Tunisie dans les dernières années. Et c'est un saut technologique qui s'accompagne d'étudiants très bien formés, d'entreprises comme Instadit qui sont des entreprises qui ont réussi dans l'esprit de ce que le président Macron appelait la « start-up nation ». Elles ont réussi à changer d'âge, à faire un saut en avant technologique absolument formidable. Eh bien, ces écosystèmes, nous devons faire en sorte de mieux les marier, de mieux les développer de façon à ce que nous puissions tirer parti de ces progrès technologiques de part et d'autre de chacun de nos pays. Ça veut dire une stratégie de territoire, ça veut dire aussi d'être mieux capable d'optimiser les atouts que nous avons. Il y a une diaspora tunisienne, algérienne, marocaine, très importante dans l'Union européenne et particulièrement en France. Il y a de part et d'autre des esprits inventifs, des esprits créatifs, des esprits très portés vers le développement entrepreneurial. Eh bien, mettons à profit ces savoir-faire, mettons à profit ces diasporas qui connaissent les deux rives de la Méditerranée pour essayer d'élargir nos capacités à investir, à avancer dans des partenariats féconds pour l'ensemble de nos pays.
Alors, je vais rebondir. Vous évoquiez Instadip il y a quelques instants. Donc, le fondateur, on l'avait en interview il y a quelques temps. Et puis, il parlait de l'avenir de l'Afrique, de l'avenir d'un pays comme la Tunisie qui pourrait aujourd'hui... pas opposé, mais en tout cas l'IA pourrait y avoir un rôle très très important. Donc l'IA, mais pas seulement l'IA et les data centers, l'importance de la data aujourd'hui, l'importance d'un positionnement stratégique pour un pays comme la Tunisie aujourd'hui, qui est aujourd'hui peut-être le point, c'est le point d'entrée déjà de la connectivité du câble Médusa dernièrement pour l'Afrique. C'était le premier point d'entrée qui arrivait de Marseille, d'Europe, donc vers l'Afrique. Aujourd'hui, on a les compétences en matière d'IA, également l'énergie, parce que l'IA, c'est une question d'énergie, donc nous avons le soleil, etc. Donc il y a cette narrative aujourd'hui qui s'installe et qui démontre qu'il y a un très grand potentiel pour des pays comme la Tunisie, pour un continent comme l'Afrique. Alors j'ai envie de rebondir sur ça et d'avoir un petit peu votre avis sur cette nouvelle narrative, sur ces espoirs aujourd'hui pour le continent africain, qui est le continent le plus qui sera le plus peuplé, de jeunes, le plus prometteur, le plus riche, plus de richesses. Et c'est pas pour rien que tous les regards se tournent un petit peu vers ce continent aujourd'hui. Donc est-ce que l'IA, est-ce que la data, est-ce qu'il y a un vrai coup à jouer pour un pays comme la Tunisie dans tout cela aujourd'hui, entre l'Europe et l'Afrique?
Vous avez raison de prendre en compte ces nouvelles données que sont la démographie. Quand on pense à l'Afrique au XXIe siècle, c'est plus de 2 milliards, près de 2 milliards et demi d'habitants en 2050. C'est plus de 4 milliards en 2100. C'est donc un réservoir de capacités, un réservoir de talents considérable. Quand vous mariez cet accroissement démographique avec le savoir-faire technologique, il y a là un vivier considérable. Regardez comment la Chine a réussi en quelques décennies à franchir une étape. Regardons comment l'Inde, en matière informatique, a là aussi réussi à faire un saut en avant considérable.
Ça va souvent de pair, oui.
Apportant des talents qui sont reconnus dans le monde entier et bien sûr aux États-Unis, dans les plus grandes entreprises du numérique. Eh bien, c'est pareil pour l'Afrique. Je pense qu'il y a aujourd'hui un esprit d'entreprise, il y a un esprit de laboratoire, façonner de nouveaux procédés, façonner de nouvelles façons de faire. Regardons comment un pays comme le Rwanda a réussi à développer la distribution postale à partir de drones. Donc tout change. L'art de la guerre change, on le voit en Ukraine, considérablement. Les façons de faire la guerre changent. Eh bien, les façons d'agir sur le plan économique et sur le plan commercial changent également à très, très grande vitesse. Donc, nous avons à rentrer dans cette compétition, mais nous avons à le faire en essayant le plus possible de nous doter de règles communes et partagées. Et c'est pour cela qu'il y a une triple ambition qui est aujourd'hui indispensable dans toute stratégie de coopération. Il y a une exigence de pointe, de savoir-faire technologique, de formation, de compétences. Il y a la nécessité d'avoir un environnement le plus stable possible. On ne peut développer un marché que s'il a de la prévisibilité. Et on parle de nouvelles technologies. Les incubateurs, ils doivent bénéficier de règles, de financement, mais ils doivent aussi bénéficier de temps. On ne fait pas une entreprise technologique en quelques années. Donc, ensemencer, arrimer, développer une start-up, ça suppose de lui permettre de franchir toutes les étapes, tous les seuils qui vont être favorables. Et ça implique aussi un partage de valeurs sur le plan des droits humains, sur le plan de la civilisation, qui nous permet aussi de coopérer ensemble. Donc l'Afrique, elle a cette capacité, il y a cette jeunesse, il y a ces savoir-faire, les technologies permettent de rentrer comme sur une autoroute aux différentes étapes de croissance beaucoup plus rapidement qu'avant, dans le schéma traditionnel des révolutions industrielles, celui qui n'avait pas franchi la première révolution avait du mal à rentrer dans la seconde. Il fallait en permanence prendre son tour. Là, nous sommes aujourd'hui à l'âge numérique, à l'âge de l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle, on est dans la possibilité d'utiliser des raccourcis technologiques qui permettent de croître et d'avancer beaucoup, beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de priorité dans le domaine technologique à telle ou telle société. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, il y a la possibilité de rattraper le temps perdu.
Alors, pour revenir sur un sujet, je pense que vous maîtrisez beaucoup et j'ai envie de profiter de votre expertise, j'ai presque envie de dire unique, sur les questions de relations de puissance et de parler donc de ce duopole. Le monde semble de plus en plus structuré aujourd'hui autour du duopole États-Unis-Chine. Est-ce aujourd'hui un affrontement durable ou une interdépendance déguisée? Et puis, est-ce que ça dépend réellement et ça dépend réellement de qui, en fin de compte, aujourd'hui? Et puis, peut-être pour ajouter une petite question à tout cela, est-ce qu'on assiste également, et je vous entendais, je vous écoutais parler tout à l'heure à des jeunes lors d'une masterclass, et ils étaient très contents de vous écouter sur différentes questions, et vous évoquiez une phase de notre histoire que vous avez très bien connue, celle du libre-échange absolu. Donc, est-ce que aujourd'hui, on assiste à un mouvement durable de re-régulation des échanges, ce qui met probablement fin à l'ère de ce libre-échange absolu?
Voilà. Alors, vous avez raison, le temps du libre-échange, de la concurrence libre et non faussée, qui était le dogme de l'Union européenne, paraît très lointain. Nous sommes dans un temps où les économies ont tendance à se replier, à se refermer. Les barrières protectionnistes, et de ce point de vue-là, l'administration Trump a fait école en multipliant les tarifs douaniers à l'avantage de sa propre économie, même si l'on voit bien aujourd'hui que cela peut se retourner contre l'économie américaine, avec un risque d'inflation, voire de stagnation, avec un problème pour le dollar. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de difficultés. Mais vous avez raison de poser la question du risque de confrontation, de rivalité entre les États-Unis et la Chine, qui polarise une grande partie de l'énergie internationale. Derrière cette logique de confrontation, il y a beaucoup d'étapes possibles, beaucoup de schémas possibles. Et l'on voit aujourd'hui que la volonté des États-Unis d'en découdre se heurte à un partenaire qui est très résistant. L'administration américaine décidée à élever les droits de douane jusqu'à plus de 100% vis-à-vis de la Chine s'est heurtée à la réaction chinoise d'un boycott sur les terres rares, décidant de limiter les terres rares, les exportations de terres rares, de délivrer des certificats pour ces terres rares, ce qui évidemment donne une contrainte très forte sur certaines technologies. Eh bien, c'est un handicap pour l'économie américaine qui a dû faire machine arrière concernant l'augmentation de certains droits de douane. Aujourd'hui, on voit bien que les représailles chinoises vis-à-vis de Nvidia concernant l'exploitation des puces H200, donc des puces très fines avec une gravure très très fine, très petite, se heurte là aussi une réaction chinoise qui privilégie la fabrication de puces chinoises par Huawei et d'autres grands groupes. Donc nous sommes dans un monde où c'est en permanence action et réaction. Il n'y a pas de puissance capable de dominer seule. Le monde de l'hyperpuissance américaine, le monde de l'unilatéralisme américain paraît derrière nous. Il faut compter avec la réaction des autres. Et c'est parce que ce monde peut évoluer comme cela, de façon surprenante, que tous les avenirs sont possibles. L'avenir d'une entente temporaire ou durable entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi ne pas imaginer qu'un nouveau Yalta puisse être éventuellement possible, qui donnerait le temps d'une respiration à l'économie chinoise, qui rencontre un certain nombre de difficultés, qui permettrait à l'administration Trump aussi de conforter un certain nombre de situations, ou alors la surprise d'une rivalité géopolitique qui pourrait naître à Taïwan ou ailleurs. Donc, il faut être prêt à différents scénarios. Et c'est pour cela, parce que nous sommes dans un monde très imprévisible, très dangereux, qu'il faut être capable de structurer, en termes de prévisibilité et de stabilité, tout ce qui est de notre ressort. Et c'est pour cela que l'Europe, le Maghreb et l'Afrique ont intérêt à avancer ensemble, à franchir rapidement un certain nombre d'étapes pour rentrer dans ce nouveau monde avec des avantages comparatifs beaucoup plus important qu'aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment ça ensemble, justement? Parce que c'est un petit peu ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, de par la Tunisie, de par sa position, de par ses atouts, de par le rôle qu'elle peut jouer entre cette Europe, cette Afrique. Et aujourd'hui, l'Europe, elle parle beaucoup de souveraineté économique et stratégique, mais est-ce que aujourd'hui, enfin, on le voit, beaucoup se posent la question, est-ce qu'elle a encore les moyens de ses ambitions face à ce duopole, justement? Et puis, l'Europe aujourd'hui, en fin de compte, pour des pays comme la Tunisie, est-ce que c'est une puissance ou est-ce que c'est un marché?
Alors la question est importante. L'enjeu de souveraineté pour les Européens, il est majeur. Et ils ont à raison le sentiment de voir cette souveraineté menacée sur plusieurs fronts. La souveraineté en matière de sécurité et de défense, on le voit avec l'évolution du drame ukrainien, l'évolution de la souveraineté dans le domaine commercial, la signature de cet accord en Écosse sur un terrain de golf entre Ursula von der Leyen et Donald Trump a humilié les Européens. 15% supplémentaires de droits de douane sans même livrer combat, c'est pas quelque chose dont nous sommes particulièrement fiers. Et puis il y a les enjeux de souveraineté technologique numérique, avec les plateformes qui, sans régulation, souhaitent pouvoir intervenir en Europe, alors même que nous disposons de tous les leviers qui permettraient de contrôler ces progrès des plateformes numériques américaines en Europe. Et puis il y a aussi la question de la souveraineté financière, avec l'apparition de crypto-monnaies, de monnaies numériques, de banques centrales, de stablecoins. Tout cela marque la complexité dans le monde qui est le nôtre. Tout cela montre que toutes les alliances que nous avons connues, le poids de l'Alliance Atlantique, la question de l'OTAN, tout ça n'est pas écrit pour toujours et qu'il faut se préparer à des changements sans doute très importants dans les années à venir et qu'il faut surtout compter sur ses propres forces. Dès lors qu'on parle de compter sur ses propres forces, il faut regarder autour de soi. Et autour de soi, dans notre voisinage, il y a des partenaires, il y a des amis historiques avec lesquels nous avons cheminé, avec lesquels nous partageons la même langue, avec lesquels nous partageons la même histoire, la même culture. Et c'est pour cela que je suis convaincu que ce voisinage-là doit constituer la priorité de notre action. Alors il faut lever un certain nombre de peurs et d'inquiétudes. On voit par exemple en France et dans d'autres États européens cette question des migrations qui devient un véritable enjeu politique. Les partis populistes et les partis d'extrême droite s'emparent de cette question pour faire en quelque sorte peur à certains électorats et plaider en faveur de fermeture de nos frontières, de barrières qui permettraient de limiter et de mieux protéger nos sociétés. Nous sommes dans un monde où la logique des murs ne permet pas de régler les problèmes. Et c'est pour cela que je crois au partenariat, c'est pour cela que je crois aux règles mutuelles, c'est pour cela que je crois à un intérêt mutuel que nous devons partager entre les questions économiques, commerciales, les questions technologiques, les questions de sécurité et de développement, de façon à véritablement être capable de mutualiser nos intérêts mutuels. Mais ça suppose beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de force.
Alors, si vous permettez, nous allons marquer une courte pause. Face à l'Aqsir, Moustamina Orajaïn, Mardaïfkoum, c'est Dominique de Villepin, qui est un tarif, Wazir Awel, français, à Sebaq. Moi, c'est Hasb, je n'ai pas dit, Mbach, Waya, Mawadia, Okhrafi, Banamishkoum, Expresso, Fiyadar, Hawal, Hasri, face à l'Aqsir.